Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ça y est, c'est la rentrée. Cette fois, pas de doute, petits et grands ont repris le chemin de leur quotidien, de leurs aventures. Parmi ces dernières, la vie sociale. Un long fleuve tranquille quand chacun trouve de quoi se nourrir et se donner. Un vrai casse-tête quand les amis ou la confiance en soi fait défaut. La vie sociale, un enjeu majeur de la vie familiale, car bien plus qu'une soupape à cette dernière, ou la cerise sur le gâteau, la vie sociale ne serait-elle pas un poumon invisible de la vie en famille, une respiration qui donne la vie et qui sait même qui parle d'un autre. Vie de couple, vie de famille et la vie sociale, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jeudi, en cette semaine de rentrée pour Radio Présence. Et nous sommes avec vous, Marie-Aude Binet, sexologue, conseillère conjugale et familiale, auteure de Grandir. Voilà, c'est l'un de vos derniers livres qui vient de paraître en cette rentrée, Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Voilà, très heureux de reprendre des habitudes avec vous de cette émission, on va dire, qui revient de temps à autre. Vous êtes normalement avec Sébastien Dex, alors peut-être que les auditeurs sont habitués à sa voix, on va dire donc qu'il arrête la collaboration avec Radio Présence pour des raisons de santé, et on vous cherchera un autre binôme au long de cette année. On va commencer par parler de la rentrée, tout simplement, Marie-Aude, on l'a fait à cette antenne, mais chacun fait sa part et je fais la mienne. On peut lire que les parents seraient inquiets en cette rentrée. Il y a un sondage sorti il y a peu, BVA pour l'appel, l'association des parents d'élèves de l'enseignement catholique, l'une des plus grandes associations de France d'ailleurs, pour le journal La Croix, qui disait qu'à 71% des parents étaient inquiets pour cette rentrée. Entre autres enjeux, si j'ai bien compris, non seulement la peur d'un reconfinement, mais une attente forte, que les familles attendent que l'école solde le passif du confinement. Qu'est-ce que vous pensez de cette inquiétude? Qu'est-ce que vous en comprenez?
Alors, je pense qu'on est dans une espèce de redémarrage, beaucoup plus concret qu'au mois de juin, puisque là, tous les enfants reviennent à l'école et les parents reprennent quand même en grande partie vraiment le chemin du travail aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a des nouvelles habitudes à mettre en place et qu'il y a une inquiétude pour les parents eux-mêmes de pouvoir tenir leur travail. Certains sont dans l'insécurité professionnelle, il faut quand même aussi en tenir compte. Et il y a justement aussi cette inquiétude de « est-ce que mon enfant va se réhabituer à l'école ? Dans quelles conditions il reprend l'école ?» Il y a quand même des conditions justement d'hygiène qui peuvent apparaître pour certains rassurantes, mais pour d'autres aussi lourdes.
On peut les préciser, hein, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, donc qui vont à l'école, c'est donc port du masque, salles de classe qui sont désinfectées plusieurs fois par jour, distanciation physique quand même, je ne sais pas comment on fait dans les cours de récréation, et éventuellement quatorzaine pour des classes ou pour des écoles même s'il y a des suspicions de cas.
Exactement. Et ensuite, il y a le niveau scolaire, la réappropriation de l'effort aussi par rapport au travail. Pour vous dire un petit peu, il y a une étude qui a été faite, une enquête qui a été faite par l'Association des conseillers conjugaux au niveau national et qui a montré que la scolarité pendant le confinement avait représenté 31,7% des difficultés pour les parents et les enfants. Donc, pendant le confinement, ça a été une difficulté, ce qui explique aujourd'hui l'inquiétude aussi qu'il peut y avoir pour les parents, parce que ça a été difficile soit de suivre les devoirs, ça a pu créer des tensions, mais aussi, ça peut aussi créer une difficulté dans le décalage de niveau. On le sait, par exemple, ceux qui étaient en grande section et qui passent en CP, il y a toute une remise à niveau, puisque le dernier trimestre n'a pas réellement été fait, mais c'est pareil sur d'autres classes. Quoi qu'on en veuille,
il y a du rattrapage. Quand les enfants disent qu'il faut que l'école solde le passif du confinement, il y a du vrai.
Et puis, il faut imaginer aussi des passages en petites sections, des arrivées en sixième, des arrivées en seconde, qui sont des classes un peu clés, un peu intermédiaires. Les enfants rentrent dans ces nouvelles classes qui sont des changements d'habitude, de niveau et même, je dirais, d'autonomisation qui nécessitent un accompagnement particulier. Et dans ce contexte-là, où il y a des peurs d'adultes, en fait, comment bien accompagner l'enfant?
Vous avez de, enfin pardon, on n'est pas là pour parler de vous, donc on va dire quid de cette réalité côté enfant. Est-ce que vous avez des échos de cette réalité? J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi peut-être justement de la queue de comète de cette période de confinement qui a été, semble-t-il, pour les enfants quand même un objet de stress. Là, aller à l'école quand on est petit avec un masque, c'est
Alors,
anxiogène?
les enfants n'ont pas porté le masque jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc déjà, c'est quand même, en tout cas pour l'instant, puisque c'est
Donc, exit en primaire, c'est ça?
maternelle et primaire, ils n'ont pas de masque. Par contre, ils voient les adultes avec un masque.
Donc, la maîtresse, même en maternelle, a un
Exactement,
masque. On ne voit pas
voilà.
son visage.
Oh, voilà, on voit que ses yeux. Et on sait que ça demande aux instituteurs et institutrices de faire preuve de beaucoup d'imagination pour faire passer des messages autrement, puisqu'on sait combien les mimiques du visage ont une importance dans le langage non verbal. Je rappelle que le langage non verbal constitue 80% de la communication. Donc lorsqu'on ne voit pas la totalité du visage, c'est quand même, je dirais,
C'est impressionnant pour un petit quand même.
Exactement, c'est impressionnant, mais il y a beaucoup de choses qui passent par ces mimiques. Donc il faut trouver une communication autre. La distanciation sociale est quand même supprimée en maternelle, donc ça c'est quand même important parce que les enfants l'ont très mal vécu, cette distanciation sociale, sur les mois de mai et juin lorsqu'il y a une reprise des cours. Et l'enfant a besoin de proximité, il a besoin de chaleur humaine, il a besoin de toucher pour justement créer le lien. Donc il y a aussi une question d'équilibre, je dirais, dans son développement psycho-affectif, l'enfant a besoin de sentir l'adulte proche de lui. Et du coup, il faut faire avec ce masque. Donc là, ça passe par une explication, ça passe par des mots, ça passe par des paroles que les parents doivent di dire et que l'instituteur, l'école, le milieu scolaire aussi dit. Donc en fait, les enfants sont des éponges. Donc le stress adulte, l'enfant le capte. Donc suivant le niveau de stress en famille ou le niveau de stress social, le niveau de stress scolaire, chez les adultes qui sont à l'école, l'enfant va plus ou moins être lui-même stressé. Si l'enfant est de nature anxieuse, ça peut augmenter son anxiété. Et là, c'est important que les parents fassent attention, peut-être, est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, est-ce qu'il veut aller à l'école, il veut pas y aller, est-ce qu'il a peur de partir de chez lui, enfin, voilà, d'être en vigilance, aussi bien dans le milieu scolaire que dans le milieu extrascolaire, sur les attitudes et comportements de l'enfant.
Alors, j'ai lu que pendant le confinement, donc, il y avait eu un certain nombre de symptômes de stress, que c'était un climat anxiogène quand même pour les plus petits. Peut-être pour les plus grands, la difficulté, c'était aussi l'absence de vie sociale. Un autre effet de ce confinement, c'est que la maison a été perçue, semble-t-il, de plus en plus pour beaucoup comme un nid. Alors, est-ce que c'est une autre chose, une autre réalité avec laquelle il faut composer en cette rentrée? C'est plutôt une bonne chose, non?
Alors, c'est plutôt une bonne chose, et même ce qui a beaucoup surpris les parents d'adolescents, c'est qu'ils ont constaté que leurs enfants n'avaient pas tant souffert que ça de ne pas voir leurs amis pendant le confinement. Ça a beaucoup surpris, puisque c'est quand même un âge où on a énormément besoin de relations sociales. Alors, c'est vrai qu'ils avaient les réseaux sociaux qui leur permettaient d'être en lien avec leurs copains, etc. Mais ils ont assez bien vécu le fait de rester chez eux. Et du coup, je pense qu'il y a eu, même s'il y a eu des tensions familiales dans certaines familles, il y a eu je dirais, un resserrement des liens autour pendant ce confinement et qui a pu bénéficier pendant l'été. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents ou les enfants ont repris plaisir peut-être à vivre davantage de moments ensemble, de se retrouver ensemble. Et c'est vrai que pour des tout petits, c'est primordial. Un enfant a besoin de sentir les parents autour de lui.
La maison nid où on subvient à tous nos besoins, nourriture, jeux, école, etc. Peut-être aussi que ça a ses limites. On va y revenir avec le thème de cette émission, sur la vie sociale. Alors, le premier lieu de la vie sociale, c'est la famille, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que tout le monde, justement, quitte le nid en cette rentrée qu'il ne faut pas d'abord penser peut-être à cela. Est-ce qu'il y a des petites recettes simples, on va dire, du bonheur à vivre ce premier lieu de la vie sociale qui est la famille? Je me suis mis un article de Marie-Claire sous le nez, 5 conseils simples pour avoir une vie de famille épanouie. Alors, tout le monde y va un peu de ses conseils, hein. Là, c'est prendre le temps de célébrer les bonnes choses de la journée, se coucher tôt, avoir une routine bien rodée, aussi surprenant que ça puisse être, oser demander de la reconnaissance et prendre du temps pour soi tous les 90 jours. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je peux vous les répéter si vous voulez.
Alors, en fait, ces conseils sont un peu la base d'un équilibre, d'un juste équilibre pour que chacun des membres de la famille se sent à sa place et trouve, je dirais, un épanouissement dans ce milieu familial, et qu'en même temps, au niveau collectif, c'est-à-dire au milieu vraiment du groupe famille, il puisse y avoir une harmonie. C'est un équilibre qui se réajuste en permanence, en fait, hein, suivant l'âge des enfants, suivant le contexte professionnel, le contexte familial. Donc voilà, je dirais que c'est à repenser à chaque rentrée. Donc on est en plein dans cette période-là.
Ça, c'est, ouais. C'est du personnalisme chrétien tout craché, c'est-à-dire le bien commun, c'est le bonheur de chacun,
oui,
et en même temps de tous.
Exactement. Donc moi, j'invite les couples à se reposer la question aujourd'hui, pour cette année 2020-2021, qu'est-ce qui va être bon pour nous ? Déjà en tant que couple, en tant qu'homme et en tant que femme, et ensuite pour notre famille, pour nos enfants, suivant l'âge qu'ils ont, qu'est-ce qui va être le mieux ? Alors ça permet de repenser au rythme scolaire, au rythme des activités extra-scolaires, le fait de voir au niveau couple et hors couple ce qui va être bon, donc la vie sociale en fait partie, et du coup d'essayer de trouver un équilibre là-dedans. Alors rien n'est jamais parfait. Mais en tout cas, de se mettre d'accord là-dessus et de pouvoir en parler avec les enfants aussi. Parce que plus ils grandissent, plus c'est important quand même de voir. On ne va pas imposer 3 activités scolaires à l'enfant. S'il a besoin de repos, il a besoin de se retrouver seul dans sa chambre de temps en temps. Voilà. Donc il y a, je dirais, à chaque fois un repositionnement en tenant compte aussi de l'évolution de l'enfant. On parle beaucoup de ce qui a déstabilisé les enfants, mais ce qui va leur permettre de retrouver... je dirais une sécurité, c'est de sentir l'affection des parents.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur 2 de ces conseils donnés donc par Marie-Claire. En tout cas, c'est mon choix. Les routines. Un planning organisé, une routine bien huilée, certes, ça ne fait pas forcément rêver, mais les routines sont le ciment de la liberté. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Eh bien, pendant le confinement, c'est ce qui a aidé des familles à tenir, justement. C'est d'avoir mis en place un planning de journée où chacun savait à quel horaire on travaillait, à quel horaire on mangeait, à quel horaire on pouvait se distraire. Et ça a permis de tenir justement un équilibre et une harmonie dans
et
les familles.
Et c'est bon pour les enfants y compris ?
Et c'est bon pour les enfants parce qu'ils avaient des repères. En fait, ce qui participe à la sécurité aussi d'un enfant, c'est des repères. Donc le but, ce n'est pas que ce soit complètement strict, bien sûr, mais qu'ils sachent qu'à tel moment de la journée, il se passe telle chose avec telle personne et dans tel lieu. C'est ce qui se passe à l'école, c'est ce qui est bon qu'il se passe aussi dans la famille. Donc c'est pour ça que je dis que de parler en couple et ensuite en famille de ce que l'on prévoit pour l'année, c'est de se dire, ben voilà, le mercredi se passera ça, le mardi soir ce sera ça, le week-end ce sera ça, et l'enfant du coup... c'est que sa semaine se déroule comme ça. Et on sait quand ils sont tout petits en maternelle, ils disent « Aujourd'hui, on est quel jour ?»« Ah, aujourd'hui, il se passe ça. » L'enfant sait et du coup, bah, il est beaucoup plus serein.
L'autre chose que j'ai gardée, c'est « Oser demander de la reconnaissance. » Derrière nos râleries se cache généralement un besoin plus profond, celui d'être remercié, d'être complimenté. Et alors là, le conseil donc, de ce journal féminin, c'est d'aller chercher le compliment.
Alors, ça paraît toujours présomptueux d'aller dire à l'autre « Bon, t'as vu ce que j'ai fait, quoi. » Et pourtant, oui, on a besoin de gratitude. En fait, tout ça,
charité bien ordonnée commence par soi-même.
Exactement.
Pour savoir se servir les compliments.
Eh bien oui.
D'aller les chercher, c'est pas se les servir.
Oui,
c'est...
mais déjà, c'est les chercher pour soi-même. On peut être fier de soi, on peut reconnaître aussi ses compétences ou ses qualités. Et puis, on peut de temps en temps valoriser ce que l'on a donné. En fait, c'est de se dire que chacun participe, contribue à l'équilibre familial et donc il y a un don de soi qui est fait. Et c'est vrai que là, pour le coup, les parents sont un exemple. Comment déjà, entre eux, ils se disent merci, ils reconnaissent ce qui est donné et comment ils vont reconnaître ce que l'enfant donne. Ce n'est pas un dû de mettre la table, c'est un service qui est rendu par l'enfant. Merci de l'avoir fait, même si c'est inscrit sur le planning de la semaine. On sait que tel jour, c'est Quentin qui va mettre la table. Mais il l'a fait, et donc merci de l'avoir fait. Et ça, je pense que la gratitude, en effet, elle participe à la joie familiale et à permettre à ce que chacun ait envie de participer à cette vie sociale au cœur de la famille.
Allez, on va faire une première pause et puis après on va parler de Quentin justement. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait, quand on est parent, comment l'accompagner dans sa vie sociale. Les étapes, on va dire, de la vie sociale chez l'enfant, on en parlera après. Et puis école et activités extrascolaires, on essaiera de donner quelques clés qui vous viennent. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite couple, vite famille et la vie sociale, c'est donc pour rappel le thème de cette émission, ce jeudi de reprise de nos programmes. Et nous sommes aujourd'hui avec Marie-Aude, sexologue, conseillère conjugale et familiale et auteure de Grandir en couple. C'est l'un de ses derniers livres, co-publié avec Michel Martin-Prével, paru aux éditions des Béatitudes. Avant qu'on parle de la vie sociale et des enfants, Marie-Aude, je voulais revenir un petit peu sur mon introduction quand je disais que la vie sociale, c'est un poumon invisible de la vie en famille. C'est aussi quelque chose, alors on va pas passer notre vie à parler du confinement, mais quand même, le but du jeu, c'est de pas oublier les leçons de sagesse, peut-être, de ce temps-là. C'est aussi une chose qu'on a pu redécouvrir à l'occasion de ce temps de confinement, c'est qu'il y a du bonheur à être en famille, quand évidemment la famille n'est pas pathogène, mais la vie de famille n'est pas une fin en soi.
Alors, en effet, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes, en tout cas je l'ai vraiment entendu autour de moi et dans mon cabinet, qui ont découvert qu'être chez soi en famille, c'était bien agréable. Ils ont redécouvert ce plaisir-là, en s'apercevant même qu'il n'était pas forcément nécessaire de voir autant d'amis qu'avant. Donc il y a eu une réflexion, un discernement sur la place de la famille et la place de la vie sociale. Et en même temps, lors de la sortie de confinement, il y a eu aussi la vraie joie de retrouver les amis et de repartager des bons moments avec eux. Donc il y a une forme de remise de chaque chose, chaque personne à sa place.
Alors j'entendais là par est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de la finalité ? C'est-à-dire la finalité de la vie de famille, ce n'est pas de vivre pour elle-même.
Alors ce n'est pas de vivre pour elle-même, et en même temps, il y a quand même, puisque la famille est le premier lieu de socialisation, de se dire qu'est-ce que l'on vit ensemble et qu'est-ce que ce que l'on vit ensemble va nous permettre d'apprendre pour mieux vivre avec les autres. Et ce que l'on vit avec les autres, qu'est-ce que ça ramène dans la vie de famille. Donc il y a eu un peu ce pont qui a été, il y a eu une reprise de conscience de ce pont en fait. Et c'est vrai que je pense que mais peut-être plus pour les adultes que pour les jeunes justement. Et ça a permis de rediscuter après avec les enfants et de se dire l'accompagnement vers l'autonomie, qu'est-ce qui est nécessaire qu'est-ce que l'on apprend dans la famille qui va favoriser cette autonomie pour les jeunes dans la vie sociale.
Alors la vie sociale, il y a des grandes étapes de la sociabilisation de l'enfant. Commençons par les plus petits. Ce plus petit que l'on dit, dont on dit au début qu'il a du mal même à faire le distinguo entre lui et sa maman. On va dire pour les plus petits, alors je ne sais pas où s'arrêtent les plus petits. Pour vous, vous nous direz peut-être en 10 mois ou 1 an.
Même avant.
Ah oui.
En fait, l'enfant se confond avec sa maman jusqu'à à peu près 7-8 mois. Voilà. Et ensuite, il va, parce qu'il y a l'autre, notamment le père, mais ça peut être les frères et sœurs qui apparaissent comme étant vraiment distincts, il va être séparé ou se séparer de maman. Et là, il va s'apercevoir donc qu'il y a le monde autour de lui.
D'où les angoisses parfois liées à cet âge, on dit.
Exactement, il peut y en avoir. Hein, c'est ce que Winnicott a mis en valeur. Mais en tout cas, il va y avoir ce premier pas d'autonomisation, de différenciation. Et puis, ça va continuer parce qu'il va communiquer. Alors, il commence à communiquer vers 2-4 mois quand même, l'enfant. Hein. Donc, il est dans l'interaction visuelle et à travers les bruits, les sons qu'il émet avec maman, mais aussi avec les autres. Et il commence à prendre conscience de ça, donc après.
Sociabilisation qui passe beaucoup par le corps aussi.
Exactement, tout à fait. Et l'affirmation de sa personnalité commence donc vers 7 mois. Les premiers pas vont faire qu'il va découvrir le monde. Hein, le quatre pattes et la marche, il va aller dans son univers, il va découvrir les meubles, les objets, etc. On sait qu'il les met à la bouche, hein. L'appropriation par la bouche est aussi une façon de découvrir le monde. Et puis, il va être dans l'imitation. Donc, j'imite papa, j'imite maman, j'imite mes frères et sœurs. C'est une façon aussi de découvrir le monde. Et tout ça progressivement, et on sait qu'après, il y a l'imaginaire, il va imaginer le monde au moment de la maternelle.
Ça, c'est quoi ?
Alors, c'est la maternelle, c'est à partir
de 3 ans.
Voilà, de 2 à 6 ans, il est dans l'imaginaire. Et l'imagination, c'est une façon.
Donc, c'est son monde intérieur qui commence à se construire.
Exactement. Et c'est extrêmement important de le laisser libre là-dessus.
Donc, la représentation qu'il a de lui-même aussi ?
De lui-même, des autres, et puis de tout ce qui l'entoure, hein, jusqu'à l'univers. Et la notion de mort apparaît à ce moment-là aussi. Donc on sait que là, avec le confinement, par exemple, avec la peur de la maladie, la peur de la mort, pour certains enfants, ça a été anxiogène parce que justement, cette notion de mort a eu besoin d'être expliquée. Qu'est-ce que c'est que la maladie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce que c'est possible? Pas possible. Et donc, pour les enfants, par exemple, qui vivent dans des milieux chrétiens, il y a eu cette notion de mort, de résurrection, de ce que c'est que la vie, qui a pu être parlée dans certaines familles.
Donc ça, c'est là comme une forme de pré-socialisation, on peut dire. Quand est-ce que l'enfant, on va dire, franchit un pas dans dans la qualité de cette interaction? Le mot est mal choisi, mais on va dire dans la distinction qu'il fait entre lui et l'autre et sa capacité peut-être d'empathie, enfin mélange d'empathie et d'autonomie, c'est quoi? C'est autour de l'âge de raison?
Voilà, l'âge de raison lui permet de commencer à mettre une réelle distance entre lui et l'autre. Il a commencé déjà à se rebeller vers l'âge de 5 ans, hein. L'enfant est en capacité d'être très agressif à cet âge-là, justement pour montrer qu'il existe et montrer son désaccord ou obtenir ce qu'il veut. Et en même temps, vers l'âge de 6-8 ans, il va être dans trouver sa place. Voilà. Quelle est ma place dans la fratrie? Quelle est ma place à l'école, dans le groupe d'amis, face aux adultes? Donc le rapport au maître, le rapport aux parents, le rapport aux autres adultes qu'il va avoir, même dans ses activités extrascolaires. Et vers la fin de l'enfance, c'est-à-dire vers l'arrivée du collège, en fait, là, il va être dans un début d'affirmation de soi avec sa personnalité.
Alors moi, j'ai lu dans un article une chose qui m'a fait sourire. À 12 ans, l'enfant a acquis les comportements qu'il doit respecter en société. Je me suis dit, formidable. Fermez le banc, il n'y a plus rien.
Mais le principal de l'éducation se fait avant 12 ans. Là, il faut être assez clair, hein. C'est-à-dire que
C'est quoi? C'est justement sa capacité de se connaître entre, pas de se connaître lui-même, mais l'idée qu'il se fait de lui-même, sa capacité d'entrer en relation, et la compréhension, on va dire, des normes qui régissent la vie sociale.
Voilà, tout à fait. C'est avant 12 ans. Et en fait, après, dans l'adolescence, on ne fait que consolider ça dans l'accompagnement vers l'âge adulte. Et souvent, les parents d'adolescents ont l'impression d'avoir tout raté parce que l'enfant ne respecte plus rien. Et souvent, je leur dis, mais en fait, vous avez déjà tout transmis. Maintenant, c'est à lui de s'approprier ce que vous avez transmis et vous l'accompagner dans cette consolidation-là.
Alors, si on parle un tout petit peu des ados, parce que quand même, on ne veut pas être désagréable avec eux, mais ça fait partie aussi des étapes de la sociabilisation, on va dire, de la jeunesse. Je ne sais pas quand vous vous arrêtez, mais deux, trois clés de la sociabilisation pour l'âge, on va dire, collège-lycée, si on s'arrête là.
Alors, il y a déjà, le phénomène identitaire, c'est-à-dire que l'adolescent doit d'abord, je dirais presque, se socialiser avec lui-même, c'est-à-dire savoir qui il est, se reconnaître, ce qui est déjà une étape quand même assez complexe. Je reviens avec le complexe du homard dont avait parlé Dolto, hein, il faut arriver à s'accepter soi-même pour pouvoir accepter l'autre. Donc, c'est par étapes.
Et le homard, c'est pour rappel, donc, on doit quitter sa carapace.
De l'enfance.
Et en trouver une autre.
Exactement.
Et donc, on est un peu à vif.
Exactement. Donc, il y a toute cette phase-là qui est assez complexe pour le jeune, assez complexe aussi, bien sûr, pour l'entourage, parce que il faut le suivre là où il est et on ne sait pas toujours où il est. Il faut qu'il trouve sa place, c'est-à-dire qu'en plus, bon, suivant qu'il est l'aîné, celui du milieu, celui le dernier de la famille, etc., mais il faut qu'il accepte et qu'il assume cette place-là aussi dans la fratrie. La fratrie est quand même une grande occasion de socialisation, hein, parce que là, on se frotte aux personnalités des autres. Et puis, il y a dans le groupe, on sait que le phénomène de groupe est très important à l'adolescence, ce qui permet de savoir qui on est par rapport à l'autre. Et il y a une confirmation de la personnalité qui se fait au moment du lycée, où là, on voit bien la différence, les professeurs le disent, hein, il y a une grande... Il y a un grand cap qui est franchi entre la troisième et la seconde première, où il y a une sérénité qui s'installe chez les jeunes.
C'est l'âge aussi des premières vraies amitiés, non?
Les vraies amitiés, le début des vies amoureuses aussi. Et du coup, voilà, il y a une espèce de confirmation de qui on est. Et là, le phénomène d'acceptation qui permet de commencer à être dans une autonomisation un peu plus sereine et d'affirmation de soi vis-à-vis des parents qui est un peu moins dans la rébellion. Alors certains parents vont me dire, quand même, vous exagérez, parce qu'en première, ça peut être encore assez, assez chaud. Mais ça dépend de l'évolution de la maturité de chaque enfant.
Marie-Aude, l'école, donc premier ou deuxième lieu de sociabilisation. L'école, c'est aussi c'est un saut dans le vide en matière de sociabilisation. Enfin, quel enfant ou quel adolescent n'a pas eu cette espèce d'inquiétude qu'on peut avoir comme avant un match de foot où il y a, et c'est normal, non ? Il y a un grand saut qu'il faut accepter.
Oui, ce qui peut générer du stress d'ailleurs chez certains enfants qui rentrent en sixième, hein, parce que le collège n'est quand même pas le lieu le plus sympathique, hein, on le sait. Ce sont des années qui peuvent être chouettes et même, ou pour certains très difficiles. C'est un réel apprentissage, oui, c'est sûr. Et puis rien que le fait dans l'école, on passe d'un seul adulte interlocuteur en classe à plusieurs adultes, plusieurs professeurs avec différentes personnalités, avec certains on va s'entendre, avec d'autres pas du tout. On va vivre des injustices, on va vivre des reconnaissances différentes suivant les adultes qu'on a en face de soi. Donc oui, le jeune apprend vraiment ce que c'est que la vie en société et la vie avec un monde adulte encore plus grand, voilà, plus diversifié. Et je dirais que c'est tout l'enjeu en fait de l'adolescence, c'est cet accompagnement vers l'autonomisation. Et ça, c'est difficile, aussi bien pour le jeune que pour les adultes. Alors, qui sont
justement, si on doit essayer de dessiner quelques clés pour les parents, vous me direz, c'est des clés, toujours c'est le bon sens qui prime, hein, mais c'est quoi essayer de trouver ?
La confiance. La confiance. Et la confiance, c'est, je dirais, l'optimisme et l'espérance. C'est-à-dire de se dire, l'enfant a les capacités en lui de devenir lui-même et de découvrir, je dirais presque, sa mission au fur et à mesure. Mais ça peut prendre du temps et ça demande vraiment un accompagnement en même temps de près et en même temps, au fur et à mesure, d'arriver à mettre de la distance. Et c'est-à-dire qu'il y a une autonomisation de l'enfant, mais il y a aussi une autonomisation du parent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte de mettre de la distance entre lui et son jeune. Et ben voilà, c'est pas toujours évident.
Ça va peut-être faire vieux jeu de dire ça, mais on a tendance à dire que l'essentiel, ce sont les fréquentations, qui on fréquente et du coup, quels sont les lieux de sociabilisation, comment se positionner là-dedans.
Alors, les parents sont quand même toujours là pour guider leur enfant.
Entre donc, prudence et lâcher prise. C'est...
Alors voilà, il y a l'âge, hein, c'est pas la même chose à 12 ans et c'est pas la même chose à 16 ans. Et en effet, oui, moi j'invite les parents à être soucieux des fréquentations de leur enfant. Il y a toujours aussi se dire quel adulte référent il peut avoir. C'est pas toujours le parent, mais si jamais il y a une difficulté, est-ce qu'il a un grand-parent, est-ce qu'il a un oncle, une tante, un parrain, une marraine, n'importe quelqu'un vers qui il peut se tourner si jamais il y a une difficulté, et notamment de dialogue avec le parent. Donc ça reste essentiel en termes de fréquentation déjà adulte, et ensuite dans la fréquentation jeune, les parents peuvent orienter. Hein, les groupes de jeunes, les activités extra-familiales, pour que le jeune soit avec des jeunes qui sont un peu plus dans ce que les parents veulent transmettre. Mais en même temps, dans l'autonomisation du jeune, les parents ne peuvent pas tout contrôler ni tout surveiller. Donc c'est pour ça que je parlais de confiance.
Chacun son chemin aussi. Hein,
chacun son chemin, et quelquefois c'est douloureux. Il faut accepter en tant que parent que l'enfant prenne des orientations qui ne sont pas tout à fait celles qu'on souhaitait. Et le dialogue reste prioritaire.
Marie-Aude, quid des activités extrascolaires ? Alors là, on fait tout peut-être un peu à la serpe, hein, mais bon, c'est le but de cette émission. Les activités extrascolaires, on peut avoir l'impression aussi que les parents profitent un peu de l'effet confinement, que c'est peut-être moins la course à l'échalote. Déjà, est-ce qu'il y a un âge, c'est-à-dire à la maternelle, j'entends dire, et il me semble même l'avoir lu, que faire des activités extrascolaires en maternelle, c'est peut-être un peu précoce. Rugby et danse à 3 ans, c'est pas un peu trop tôt ?
On voit fleurir beaucoup de propositions, en effet, pour les 3-6 ans en activité extrascolaire, du rugby, de la gym, du judo. Enfin voilà, vous pouvez faire beaucoup d'activités, de la musique. Je dirais que là, ce qui est préconisé en tout cas, c'est de laisser l'enfant vivre tranquillement le plus longtemps possible. Voilà, notamment parce que justement, c'est important pour lui de développer. Ce sont des âges où ils ont besoin d'être dans la manipulation. Donc c'est le jeu, c'est le jouer, c'est l'interaction adulte et même quelquefois individuelle. L'enfant a besoin qu'on porte attention à lui exclusivement. Donc c'est la priorité, c'est je dirais l'accompagnement plutôt des parents auprès de l'enfant et de prendre du temps avec lui à la maison. Pour autant, certains enfants vont avoir besoin de se défouler, vont avoir besoin d'être nourris. Donc oui, une activité extrascolaire pour certains peut être nécessaire. Mais là, c'est le parent qui, en connaissant son enfant, va...
Est-ce à l'enfant de choisir ? Est-ce qu'il n'est pas un peu jeune pour,
c'est pas à l'enfant
pour
de
décider
choisir.
Lui-même, dire « moi, c'est tir à l'arc cette année et je veux arrêter de
faire
ça ».
Alors, quand il est en maternelle, non. Et même en primaire, il peut émettre des idées. Pourquoi pas ? S'il vous dit « j'ai envie de faire de la danse », on peut lui... En fait, le parent peut présenter un panel d'activités, mais le parent va tenir compte de son propre emploi du temps, de sa propre fatigabilité. Il y a des enfants qui seraient prêts tous les soirs à faire une activité. Bon, c'est raisonnable que les parents disent « Écoute, moi, je suis désolée, de 5 à 6, je ne pourrais pas t'accompagner, donc cette activité-là, ce ne sera pas possible. Ou tu fais déjà du piano et de la gym, tu ne vas pas en plus faire du tennis. » Enfin, voilà. Donc, il y a aussi... C'est direct, c'est une éducation au choix. Et quelque part, au renoncement et à la frustration. Alors, ce n'est pas toujours drôle. Mais n'empêche, voilà, ça fait partie aussi de ce que l'enfant a à apprendre. Aujourd'hui, en tout cas, suite au confinement et aux règles aujourd'hui qu'il y a pour les activités, c'est sûr que beaucoup de parents se posent la question de remettre leurs enfants dans des activités ou dans plusieurs activités, et que je pense que cette année, il y aura une modulation qui sera faite davantage par les familles.
Mario, dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause. Peut-on être un bon parent sans que chaque enfant ait deux activités sportives et musicales?
Alors, je vais reprendre votre terme « bon parent », il est piège. Il n'y a pas de mauvais ou de bon parent.
On peut avoir l'impression aujourd'hui que ça devient l'incontournable, c'est-à-dire un enfant qui ne fait pas une activité à l'extérieur, les parents seraient...
Alors, on
pourrait leur envoyer la gendarmerie.
Je vais juste vous répondre. Pour quel que soit le parent a juste à s'interroger, et les parents ensemble dans leur dialogue, comme dont je parlais tout à l'heure, c'est « est-ce que c'est bon pour notre enfant ?» C'est la seule question.
Oui, mais enfin, on fait aussi avec ce qu'on dit, comme on dit au bistrot.
Oui, mais il n'y a que les parents. Je dirais, c'est quand même les parents les premiers mieux placés. Voilà. Et plus l'enfant grandit, plus on peut être en dialogue avec lui, bien sûr, pour tenir compte de sa personnalité, de ses besoins. Quel est le besoin de notre enfant ? Et puis aussi, quels sont nos besoins en tant que parents ? Enfin, c'est important de ne pas s'y perdre en tant que parent. Hein. Donc, je dirais, la vie sociale, c'est ça. Chacun doit y retrouver quelque chose qui lui apporte. Et en même temps, on peut se donner sans se perdre dedans.
Et puis, la vie sociale, c'est aussi les copains de l'école, les cousins ou les voisins. Il n'y a pas toujours besoin d'aller au rugby pour rencontrer du monde. Hein,
on peut inviter les amis à la maison et ça peut être tout à fait aussi épanouissant.
Allez, on fait une deuxième pause, on va retrouver. On va donner aussi quelques clés ou suggestions en cette rentrée pour essayer de vous accompagner, chers auditeurs. Clés vie sociale pour la vie de couple et la vie de famille.
Thank you.
Vie de couple, vie de famille et la vie sociale, c'est donc pour rappel le thème de cette émission en ce jeudi de rentrée, avec comme invité Mario de Binet, habitué de cette antenne, sexologue, conseillère conjugale et familiale et auteur donc d'un ouvrage qui paraît en cette rentrée « Grandir en couple », puis copublié avec Michel Martin-Prével, paru aux éditions des Béatitudes. Michel Martin-Prével étant un père de famille devenu veuf et devenu prêtre et religieux dans la communauté des Béatitudes, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors Mario de Binet, la vie sociale, on va dire côté parents, là aussi, les conseils de base en cette rentrée, qu'est-ce que vous diriez, voilà, par quoi faut-il commencer ?
La vie sociale des parents, alors je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà de réfléchir personnellement et ensuite en couple, quelles sont nos envies cette année ? J'ai envie de faire du théâtre ou j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire une soirée avec des copains une fois par mois, enfin voilà, de dire à l'autre quelles sont ses envies. Et ensuite, de faire un compromis. Qu'est-ce qui est possible réellement de réaliser en termes de temps, en termes financiers, en termes, voilà, sans oublier la place du couple. À quel moment aussi nous nous voyons en couple.
Donc les premières envies, c'est de se demander ce que chacun souhaite faire seul, c'est ça ?
Exactement.
Mais voilà. C'est toujours possible ça ou... Parce que ça finit par faire beaucoup de choses à faire.
Il peut y avoir des choses très simples, c'est de dire, moi j'ai besoin une fois par semaine d'avoir une heure pour moi. Sous quelle forme, comment je la prends cette heure ? Voilà. Ça peut être rien que ça. Ça peut être dans le week-end, j'ai besoin d'aller courir tous les dimanches matin avant la messe ou d'aller le samedi matin faire le marché tout seul. Enfin, n'importe. C'est de dire de quoi on a envie. Ça peut être aussi dire, cette année, j'ai envie de partir faire une semaine seule. Voilà. C'est-à-dire de vraiment être très tranquille.
Sympa la rentrée.
Oui, mais c'est source...
Alors, je voudrais une semaine seule, mais si possible, dès les vacances de la Toussaint.
Eh bien, pourquoi pas. Voilà. Mais en tout cas, de se dire, voilà, qu'est-ce qui va être source d'épanouissement et de sérénité ? Qu'est-ce qui va permettre de se sentir bien dans la vie de couple, la vie familiale, et je dirais même intérieurement pour soi. Il est important de pouvoir nourrir son intériorité. Et on ne nourrit pas son intériorité sans prendre des moments pour soi. Qu'il soit spirituel ou qu'il soit dans la nature. Voilà, c'est vraiment écouter ses propres besoins. Et quand on écoute ses besoins, on est beaucoup plus facilement à l'écoute des besoins de l'autre, de son conjoint ou de ses enfants.
Alors, en couple, chaque rentrée, comme dans certains mouvements, on répète certains mantras, mais en même temps, il est toujours bon de les rappeler, quid de cette règle que j'avais entendue, qui semble un horizon parfois impossible pour beaucoup, essayer d'avoir une heure par jour, une soirée par semaine, une journée par mois, un week-end par trimestre, une semaine par an, mon Dieu, quel monde merveilleux.
Voilà, l'idéal. Alors, moi j'invite quand même chacun à prendre au moins, alors ça paraît pas beaucoup, mais pour certains c'est déjà compliqué, de se prendre 10 minutes pour soi tout seul par jour.
D'accord, là je parlais de la vie de couple. Mais
oui, oui, mais c'est important, déjà tout seul. Et ensuite en couple, tous les soirs de prendre pareil, 10 minutes pour au moins échanger sur la journée. Et ensuite, si possible, 2 heures par semaine. Donc j'invite les couples à se dire, telle soirée, on mange sans les enfants et on prend notre soirée pour nous. Si ce n'est pas possible, parce qu'il y a des déplacements professionnels, parce que il peut y avoir plein de raisons particulières, c'est au moins une fois par mois. Ça, alors, c'est le minimum.
Donnez-nous un exemple parmi tous ceux que vous voyez défiler dans votre cabinet d'un couple qui, un jour, s'y est mis et qui en a vu les bienfaits.
Alors, j'en ai plusieurs couples qui se sont aperçus, en effet, qu'ils ne prenaient jamais de temps ensemble et qui ont mis en place ces temps déjà seuls et ensuite en couple.
Qu'est-ce que ça change ?
Ça change le fait de réellement s'asseoir pour être avec l'autre, en présence de l'autre. C'est pas juste je suis à côté de toi, mais je suis en présence et en plus je suis disponible. Donc ça a permis de remettre en place de l'écoute. Ça a permis de remettre en place du dialogue avec j'ose parler de moi, j'ose écouter ce que tu dis de toi. Et vraiment pour certains couples, ça a apporté de la sérénité.
Il y a une méthode simple pour ces temps.
Oui, alors dans mes livres, je donne des exercices qui permettent un peu de vivre ça, mais c'est souvent adapté à la particularité déjà de la manière dont chaque couple communique. Il y a des couples qui communiquent de manière tendue et des couples qui communiquent de manière très facile. Donc c'est adapté au niveau des outils. Certains ont besoin de réapprendre à communiquer, d'ailleurs, à ce moment-là. En tout cas, ce que moi, j'invite les couples, c'est, pendant ces 2 heures, par exemple, par semaine, c'est d'avoir un temps d'une demi-heure où vraiment on va parler en profondeur. Et le reste du temps...
C'est-à-dire, on parle d'autre chose que de ce qu'on a fait ou de,
voilà, on va,
du
on
quotidien
va,
familial.
Voilà, on va vraiment dire où j'en suis. Voilà, moi, voilà ce que j'aime, ce que j'aime pas, ou voilà ce que je pourrais te dire de ce que j'attendrais ou de ce qui me manquerait, etc. Et on va vraiment parler du couple.
C'est-à-dire, on parle de soi, mais on parle de la relation aussi.
Voilà, exactement. Et après, le reste du temps, on se détend et on prend un moment de plaisir. Voilà, parce que ça peut stresser certains
tout
conjoints.
Tout ça en 2 heures ?
Oui, mais ça se vit très bien. Mais ça veut dire, vous voyez, c'est de se dire, mais quel est le temps de plaisir aussi qu'on a envie de prendre ensemble ? Ça peut être voir un bon film, ça peut être jouer aux cartes. Ça peut être parler d'un futur projet de voyage, n'importe. Voilà, c'est on passe un bon temps ensemble. Et en même temps, on ne passe pas à côté du fait de parler d'un sujet profond qui peut même être au sujet d'un enfant. Hein. On peut parler en profondeur d'une orientation pour un enfant.
Marie-Aude, en cette fin d'émission, j'aimerais qu'on parle de 2 situations plus particulières. Les parents de jeunes enfants, qui parfois ont bien du mal quand ils ont des tout-petits à avoir une vie sociale. Et puis, les parents de plus grands qui se retrouvent avec des enfants qui partent de ce fameux nid. Alors, si je prends le premier cas de figure, les jeunes parents, on trouve bien des blogs avec des choses... avec des choses assez cocasses. Par exemple, j'en ai trouvé un, c'est ta mère sur le web. Bon, tu es donc bloqué chez toi avec un enfant qui hurle, pleure, vomit, râle. Alors tu crois que les gens vont venir chez toi, mais chez toi, ça sent la vieille couche. Il faut parler à mi-voix et on ne peut pas boire parce que les enfants pourraient tomber sur une bouteille par inadvertance. Alors personne n'a envie de venir. Ça, c'est parfois un secret de polichinelle. Quand on est jeune parent, c'est parfois compliqué la vie sociale.
Alors, il y a des parents qui, en effet, mettent l'enfant au cœur de leur vie et, sans s'en apercevoir, doucement glissent vers un isolement familial. Et j'ai en effet des couples qui, un jour, se réveillent et se disent ben, « on ne voit plus personne ». Et finissent par étouffer, bien sûr, parce que il est gentil, il est adorable, mais au bout d'un moment, ça limite quand même...
Mais il y a aussi une réalité, Mario, c'est que les enfants, ça se réveille tôt, parfois ça se couche tard,
oui,
ça se réveille la nuit.
Oui,
voilà.
Mais cette réalité n'empêche pas les adultes de vivre leur vie. J'ai beaucoup de couples que j'accompagne, alors c'est plus les mamans, mais qui n'osent pas faire appel à des babysitters, qui ne veulent pas confier leurs enfants aux grands-parents avant tel âge parce que l'enfant serait trop petit. Or, on sait dans le développement psycho-affectif de l'enfant que l'enfant est capable d'aller une journée chez son grand-parent très tôt, quand il est bébé, avant l'âge d'un an. Donc, comment le parent ose se détacher lui-même de son enfant, faire confiance aux autres adultes. Et puis, il y a une question d'organisation de la vie aussi. Si on organise toute sa vie qu'autour de l'enfant, de fait, on ne fait pas de place aux autres, même pas à son conjoint. Mais si, au contraire... l'enfant est intégré dans la vie des adultes, ça change tout. Donc, ça questionne la place de l'enfant, en fait. Et ensuite, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on peut le confier de plus en plus facilement. Un enfant de 10 ans, c'est assez facile de le confier à des amis. C'est pas un enfant qui prend beaucoup de temps ni beaucoup de charges. Un enfant de 15 ans, il peut rester tout seul une journée chez lui. Donc, voilà, c'est aussi comment le parent ose continuer à avoir sa propre vie. Et en couple, comment on ose aussi prendre du temps. Donc souvent, quand les couples me disent « on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au cinéma », et je leur pose la question « mais quel âge ont vos enfants ?» Quelquefois, les enfants ont 13 et 11 ans. Je leur dis « mais là, vous pouvez les laisser seuls pendant que vous allez au cinéma. » Voilà. Donc il y a aussi cette capacité à avoir sa propre autonomie en tant qu'adulte et à laisser progressivement, dans l'effet miroir et imitation, l'autonomie à l'enfant.
Alors, quid après d'une autre situation, on pourrait s'y arrêter plus longtemps, mais on va faire avec le temps qu'on a, le fameux syndrome du nid vide. Les enfants partent pour études, ça arrive à un moment, et là, quoi qu'on veuille, et quelle que soit la relation que l'on avait avec eux, même si elle n'était pas fusionnelle, ça change. Alors,
oui, il y a un changement qui peut être dès le premier qui s'en va, mais qui peut arriver que... quand le dernier de la maison s'en va, ça dépend des familles et des relations en effet qu'on a avec les enfants. Il faut savoir aujourd'hui quand même que la moyenne de départ des enfants en Europe est de 26 ans. Donc c'est assez tardif et que
un peu plus tôt en France. Hein.
Alors c'est un peu plus tôt en France, c'est plus vers entre 23 et 25 ans. Et il faut savoir aussi que c'est beaucoup plus tardif pour les garçons que pour les filles. En Europe, en moyenne, c'est 35,3% des hommes de 25 à 34 ans habitent encore chez leurs parents, alors que c'est 21,7% chez les femmes. Alors, une des explications, c'est que les garçons acquièrent une autonomie plus rapidement dans les familles que les filles, parce que les filles, on a tendance à plus les protéger. Et du coup, elles ont besoin, elles, de s'émanciper beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, bon, c'est une explication, hein, mais ça n'est pas la seule. En tout cas, bah, les parents s'habituent à avoir leurs enfants très tardivement chez eux, avec le côté « c'est lourd ». Et en même temps, le côté « j'ai encore mon petit avec moi » ou « ma petite avec moi ». Donc oui, il y a un phénomène de nid vide qui va tout déstabiliser en fait. Ça déstabilise à titre personnel et pas que les femmes. Il y a des hommes aussi qui ont du mal à voir partir leur enfant. Et puis, ça déstabilise au niveau conjugal. Ah zut, on se retrouve l'un en face de l'autre, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Alors c'est une occasion magnifique de retrouver sa vie de couple et je ne peux qu'encourager à préparer cette transition-là. Et en même temps, ça peut mettre en lumière aussi des difficultés, et même dans la relation aux enfants.
Et ben voilà, bah écoutez, bon courage en cette rentrée. Il y a surtout beaucoup de belles choses à vivre pour vous accompagner, entre autres ce livre que vous venez de publier, Grandir en couple, paru aux éditions des Béatitudes, avec Michel Martin-Prével. Merci Marie-Aude.
Merci à vous, Emmanuel.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.